forêt, nos différences.
Un mercredi sur deux à 19h sur Radio G. Il est 19h sur Radio G et on se retrouve pour cette première émission de l'année. Ça aurait mis du temps, c'est vrai, mais voilà, on est là, c'est le plus important. On en profite du coup pour vous souhaiter une très très bonne année. Aujourd'hui, émission un tout petit peu spéciale pour une raison très simple, c'est que Mel n'a plus de voix. Donc si elle parle maintenant, là, son micro est ouvert, mais je suis pas sûr qu'elle parlera.
Bonjour.
Voilà, c'est... Je crois qu'on t'entend, mais c'est t'es la sœur de Marjorie Simpson, voilà. Mais du coup, on se retrouve là, c'est moi qui vais faire sa chronique. Et en parlant de chronique, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on va commencer par parler tout simplement de K-pop, sauf que cette fois-ci, ce sera pas par Mel, ce sera par moi. Et je vais parler de jeux vidéo. On suivra tout de suite avec une chronique assez particulière où ce sera à la fois sur du cinéma, à la fois sur un livre. Et ce sera du coup fait par Claire qui parlera de...
Hunger Games.
Hunger Games, je n'ai pas mes notes. On parlera aussi de la fin de Stranger Things pour avoir un peu les avis, tout ça. Et on finira, si on a le temps, ce qui fait qu'on n'aura peut-être pas le temps, effectivement, où on parlera d'un petit sujet avec l'IA, mais de toute façon, Mel aura quelques... Ah, c'est pas aujourd'hui ?
Non, vu que j'ai plus de voix.
Oui, c'est vrai que Mel a plus de voix, du coup, on ne parlera pas d'IA.
On avait oublié que Mel n'avait plus de voix, ouais. Désolé.
Comme a dit Claire avant le début de l'émission, on aurait pu faire l'émission en morse, mais Mel n'est pas d'accord et ça nous rend très triste.
Je ne connais pas le morse.
Mais non, plus sérieusement, du coup, Mel aura quelques petites. Petites annonces à vous faire à la fin, mais voilà, on digresse beaucoup, Grèce, et on perd un peu de temps parce que ça fait du bien de revenir au studio, mais on va débuter tout de suite avec notre première émission et qui est tout simplement Game Pop, et ce sera présenté par moi-même. Donc aujourd'hui dans Game Pop, de quoi on va parler? Grande sous-catégorie, j'allais dire. On va parler dans un premier temps de tout ce qui va être dernière nouvelle dans le monde du jeu vidéo. Puis on fera un petit focus un peu plus gros sur tout ce qui va se passer un peu sur un jeu qui moi m'a particulièrement plu, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui me plaît, du coup j'ai envie d'en parler, et puis si vous n'êtes pas content, bah, c'est pareil. Donc, les dernières nouvelles dans le monde du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a? Alors, beaucoup de choses. Petit temps, on a un événement à venir qui est du coup le Xbox Developer Direct, qui est confirmé que, bah, du coup, Microsoft a confirmé qu'il allait avoir un Xbox Developer Direct cette année, et ce sera du coup le 22 janvier. Ce sera le premier grand rendez-vous de l'année. Au programme, des nouvelles concrètes sur Fable, sur Forza Horizon 6, sur un mystérieux projet nommé Beast of Reincarnation, et voilà, c'est déjà pas mal, on va pas se mentir, c'est trois gros jeux qui ont l'air bien. Moi, personnellement, il y en a un ou deux qui me piquent mon truc, mais le but de cet événement, c'est tout simplement de rassurer les joueurs sur tout ce qui va être annoncé, et surtout que ça vient après une surprise, une annonce un peu surprise qui pour le coup touche la PS5, qui du coup là le passage d'Avowed sur PS5 prévu pour le 17 février, confirmant du coup le multiplateforme qui est de plus en plus assumé par Xbox. Est-ce qu'on en a rien à foutre que Avowed arrive sur PS5? Ouais, le jeu était médiocre, mais voilà.
Il sera médiocre sur PS5, c'est beau.
Voilà, c'est ça. De toute façon, jouer sur PC. Mais c'est pas la question. Je crois que Mel, tu voulais prendre la parole.
Oui, J'ai une très très grosse attente pour ce Xbox Direct et on fera un retour dessus, je pense. Fable, voilà, c'est le jeu. Fable. Et j'ai perdu mes notes.
C'est pas grave. T'as envie de voir Fable.
Voilà.
T'as envie de voir Fable. Retourne dans ton cercueil Dracula. Ça va bien se passer.
J'aurais dit Perforas, tu vois.
Oh, j'avoue, ça marche aussi.
T'as une petite énigme à nous faire là soudainement.
À quatre pattes le matin, le midi il marche sur deux pattes, et le trois et il marche sur trois pattes le soir.
Vous savez ce qui est magnifique là-dedans? C'est qu'elle a la voix de Perforas, mais elle a aussi l'esprit de Perforas, c'est-à-dire qu'elle est sénile. C'est pas grave. Je suis taquin, c'est pas méchant. Mais du coup, petit 2, Nintendo Switch. Bah, la console continue à être un peu sur toutes les lèvres, ce qui, moi, personnellement, me rend triste, parce qu'encore une fois, c'est une console de merde. Mais voilà, c'est pas la question. Je sais très bien qu'il faut pas faire ça. Vous avez l'habitude de mails qui ne se mouillent pas? Bah voilà, la Switch 2, c'est de la merde. Animal Crossing New Horizon édition 2 qui sortira le 15 janvier, une version optimisée pour la version 3.0 de la Switch 2 qui promet de relancer l'intérêt pour l'île. Intérêt qui avait été détruit par
Nintendo
eux-mêmes, parce que ils sont où les DLC?
Ils sont où les mises à jour prévues?
Ils sont où les mises? Ouais, c'est ça. Bah, 25€ pour une île de merde où tu dois juste préparer des mariages?
Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes?
Bah, c'était pas genre...
Non, tu dis n'importe quoi par contre là. Le DLC est très bien. Le seul truc en fait qu'ils ont merdé, c'est qu'ils avaient promis des mises à jour ultra régulières. Et on n'a pas eu...
Ça valait pas 25€ le DLC.
Non, en fait, c'est
pas
ça.
Non, c'est pas ça. C'est le jeu en lui-même. C'est oui. Animal Crossing New Horizons.
Oui.
Le DLC, ça n'a rien à voir. Le DLC est très bien en lui-même. Mais le jeu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient promis des mises à jour ultra régulières, genre presque tous les trimestres.
Il n'y en a pas eu.
Il y en a. Au début, il y en avait.
Il y en a eu un an, c'est ça, ouais. Il y a eu Halloween.
Un an, et puis après, en fait, les événements, c'était toujours les mêmes. Et puis après, les mises à jour se sont diminuées.
Ouais.
Et elles se sont raréfiées, voilà. Et ensuite, pire que tout. À la 2.0, ils ont sorti le DLC, une grosse mise à jour, et puis plus rien.
Ça, puis c'était fini.
C'était fini. Et là, du coup, pour la sortie de la Switch 2, à l'occasion, ils sortent la 3.0. Il y a quelques nouveautés.
C'est la même chose, hein, tu le sais.
Mais c'est en fait, pour ceux qui ont le DLC, ça change. Ça change pas trop. Il y a quelques nouveautés sympas, mais...
Après,
en fait, c'est sortir ce qu'ils avaient promis de sortir il y a genre 4 ans.
Oui.
Voilà,
mais de le sortir de façon payante maintenant pour des gens qui ont souvent déjà acheté le jeu. Hein.
Et surtout qui ont essayé de tuer deux, ce que tout le monde n'a pas, ouais. Parce que, encore une fois, genre, je rigole pour dire que c'est une console de merde, mais encore une fois, il n'y a pas d'intérêt à l'acheter.
Alors, par contre, la 3.0 serait disponible aussi sur la Switch 1.
Ah bon ? Ok, d'accord.
Le seul truc qui ne sera pas dispo pour la Switch 1, c'est les capacités améliorées par rapport à ce que offre la Switch 2. Par exemple, en fait, au lieu d'avoir que 8 joueurs dans ton île, tu vas pouvoir en avoir 12 ou 15. Okay. Voilà. Et,
okay. Encore une fois, je suis persuadé que la Switch 1 serait capable d'avoir 12 joueurs sur...
Non.
Ah non, elle est pas assez puissante.
Elle est vraiment si peu puissante que ça.
Je crois qu'elle est tout aussi puissante que la Wii U, en fait, pour être tout à fait
honnête. Déjà 8 joueurs.
c'est une dinguerie.
Déjà 8 joueurs, pardon, c'était hyper compliqué. Des fois, parce qu'en fonction des connexions des gens et tout. Donc là, c'est stabilisé et c'est le seul truc. Il y a une autre. Il y a juste une autre.
En vrai, il y a des bons trucs que vous me dites, mais dans l'intégralité, vous me donnez encore plus de flèches pour cracher sur Nintendo. Hein.
En vrai, pour ceux qui n'ont pas acheté le DLC, c'est grave bien cette mise à jour. Mais pour ceux qui ont le DLC, ça fait un peu redondant parce que c'est un hôtel qui va arriver sur l'île et ça va être un peu la même chose avec des visiteurs, etc. Mais tu vas pouvoir les inviter sur ton île. Et donc, c'est bien, mais c'est pas... C'est ce qu'on attendait en fait pendant les mises à jour.
Je vais pas mentir, j'ai beaucoup aimé Animal Crossing. Moi, j'ai joué pendant tout le confinement. Mais là, j'ai juste l'impression qu'on se fout de notre gueule. Enfin,
en fait, c'est juste la façon dont ils l'ont fait.
Mais c'est pas les seules nouveautés. Et c'est ça aussi où je vais revenir sur le côté de ça a l'air d'être un peu du foutage de gueule. Bah, Final Fantasy Remake 7 Integrate arrive le 22 janvier, donc c'est un hit de Square Enix. On va plus présenter Final Fantasy 7. Mais est-ce qu'on aura enfin une version portable next-gen? Encore une fois, c'est un jeu qui est déjà sorti il y a des années, quoi. Genre, j'ai vraiment l'impression que Nintendo est juste en mode, hey, regardez nos nouveaux jeux. C'est les mêmes jeux qu'on avait il y a 10 ans sur les autres consoles, mais nous on les a maintenant, et genre c'est d'une tristesse. Et du coup, ça va directement toucher à l'autre truc aussi qui, moi, pour moi, est lié, c'est que malgré toutes ces grosses sorties, voilà, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, on note quand même un léger essoufflement sur les ventes en Europe, surtout après les fêtes, ce qui pourrait suggérer qu'on aura probablement une version light ou OLED plus rapide. Je mets mon petit grain de sel encore une fois là-dessus. La Switch 2 aurait dû être OLED directement. Genre.
Bah, ça fait déjà la technologie, on peut pas dire que c'est pas... Je veux dire, c'est juste pour une console plus complète, c'est plus puissante, oui, j'avoue, effectivement. Mais en soi, la OLED n'aurait pas dû exciter en elle-même. Enfin, je veux dire, oui. Je suis désolée, tu vends plus cher une console qui a seulement la particularité d'avoir un meilleur écran.
Elle est un peu plus grande aussi.
Et elle est un peu plus grande, mais je suis désolée. Et là, c'est mon avis, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, j'ai arrêté de rigoler là-dessus, sur ça change rien tout ça. Ça fait plusieurs années où j'ai l'impression que vraiment Nintendo, plus que les autres producteurs, nous prennent pour des vaches à lait. Ils se foutent de notre gueule, ils nous donnent des jeux qui sont souvent médiocres, souvent juste des republications de jeux qui étaient déjà sortis il y a des années, quoi. Il y a des années sur des consoles qui étaient genre la PS3, et ils sont en mode, regardez, genre... Et, enfin, là, je vais être sincère, s'ils font ça, c'est parce que les gens achètent, c'est parce qu'ils nous font, ils font de la merde, et les gens disent le caca, c'est délicieux.
Je suis
pas complètement d'accord non plus.
Je suis pas totalement d'accord avec toi, parce qu'en fait, il y a certains jeux qui étaient avant sur des consoles ou des PC, mais tout le monde n'a pas accès à toutes les consoles, à tous les PC. Et y a des gens qui ont seulement une Switch dans leur vie. Et du coup, bah, en fait, ils peuvent pas, ils se retrouvent bloqués, parce qu'en fait, bah, y a plein de jeux qui sont des exclus Xbox, qui étaient des exclus Xbox avant, ou PlayStation, ou PC, et maintenant, en fait, c'est ouvert. Et en soi, oui, on peut te prendre pour une vache à lait, mais il faut penser aussi qu'il y a pas tout le monde qui a accès à un PC ou à d'autres consoles.
Ton argument s'arrête au moment où Pokémon.
Eh ben, moi, je pense que je peux compléter son argument. C'est une très bonne chose. Effectivement, c'est très fermé. Nintendo, toutes les consoles, c'est pas comme un PC. Un PC, c'est très bien les PC.
Oui. Mais un PC,
tu craques, tu peux avoir plein de jeux, tu peux avoir des émulateurs, même si c'est pas légal. Mais, cependant, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils vendent très très cher des jeux qui sont sortis il y a des années. Oui. Si tu permets juste aux gens de pouvoir rejouer un jeu et qu'au final, toi, t'as juste payé genre une équipe pour faire un petit remodelage graphique. Pourquoi tu le vends aussi cher qu'un œuf, comme si t'avais pris des années à le reconstruire? T'as fait ta marge dessus déjà.
Ça, je suis d'accord.
Ça m'énerve. Et ce qui m'énerve aussi là-dedans, c'est qu'en fait, ils prennent pas de risques. Je pense qu'il y a un côté où ils prennent pas toujours les gens pour des vaches à lait, mais surtout, t'as cette mentalité un peu japonaise de genre, on va pas prendre de risques. Ah, oh, Donkey Kong ça marche, on va faire un Donkey Kong. Mario ça marche, et ben un de Mario par an. Et genre, c'est quoi leur prise de risque récemment? Ils ont fait un jeu Princess Peach.
Il n'y a aucune prise de risque, mais même sans ça, genre, on va revenir sur les Pokémon. Les Pokémon sont honteux. Il y a un Pokémon par an, et c'est... Enfin, désolé, là, on va revenir sur le caca, c'est délicieux. Le fait que les gens achètent les Pokémon... Square Enix a sorti un jeu de l'année dernière, qu'ils avaient pris un truc comme 5 ans à développer. Le jeu est magnifique. En fait, on a vu ce que Square Enix était capable de faire si on leur laissait le temps. Parce que, je vais pas dire qu'ils sont pas talentueux, c'est pas vrai, ils le sont. Mais les Pokémon Zelda, que les gens disent, non mais c'est pas si... Si, faut arrêter de dire, non mais c'est parce que c'est Pokémon. Non. Ouais. C'est vide, c'est moche. Et ça n'ajoute rien.
Bah d'ailleurs, il me semble qu'il y a des mises à jour régulières sur Pokémon Zelda.
Ça reste de la merde.
Bah oui, enfin, c'est déjà mieux que Animal Crossing.
C'est mieux que Animal Crossing. Il me semble, après, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que quand même, les jeux Pokémon, ils ont la... l'avantage d'avoir des mises à jour régulières.
Ouais, mais quand t'as des mises à jour sur un jeu où littéralement, genre, il est buggé as fuck, vide et tout ça, ça change pas grand chose. Je veux dire, quand Palworld fait mieux que Pokémon alors que c'est littéralement en plagiat de Pokémon, posez-vous les bonnes questions, quoi. Merde.
En fait, je pense que la différence, c'est le traitement que tu donnes à tes clients. Parce que littéral, enfin, t'es un joueur, mais t'es surtout un client.
Oui.
À partir du moment où les gens acceptent, et ça fait des années maintenant, quand on pense même genre à Assassin's Creed et tout, à acheter des jeux buggés et dire « Oh, c'est pas grave, ils feront des mises à jour. » Bah non, t'as acheté un produit qui devrait être fini, Coco. Si tu mets des mises à jour, c'est des mises à jour de contenu ou des petits bugs que t'as pas remarqué ou des endroits pour glitch et tout. Des patchs, quoi, concret. Mais pas littéral. « Oh, il y a des endroits du jeu que tu peux pas accéder parce qu'il y a un bug, mais ha ha ha, vous inquiétez pas, on va faire des mises à jour. » Bah non, tu devrais pas avoir ça.
Surtout qu'aujourd'hui,
c'est pas un produit qui marche. Je vais pas acheter un aspirateur en disant ah bah ça va, je peux le démarrer pendant 5 minutes.
et il aspire pas, mais il y aura un patch. Vous en faites pas. Surtout que encore une fois, là on a aussi autre chose, c'est qu'on a quelque chose qui est en mode bah en jeu sorti par Nintendo ou par un autre AAA, c'est presque 100 balles.
Ouais.
Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que cette année particulièrement, on a eu plein de jeux qui sont bien meilleurs. Et qui 30 ou 40 euros.
Ouais.
Et c'est juste ça, genre à un moment. Et je connais des gens qui jouent à Pokémon et qui sont en mode ouais, je sais que c'est pas ouf, mais c'est Pokémon et j'ai envie de pouvoir continuer à jouer à Pokémon. Du coup, j'achète le nouveau Pokémon. Et en vrai, faites ce que vous voulez. Mais personnellement, putain, ce que ça me rend triste d'entendre ça.
C'est la nostalgie.
C'est la nostalgie. Et puis même, il y a l'espoir aussi que ce soit meilleur. Tu vois, toujours l'espoir. Si t'es un grand fan, tu vas acheter parce que tu te dis, bah, déjà, je suis fan. Et puis, en plus de ça, j'ai espoir que ce soit mieux que le précédent.
Garder les équipes.
Oui. Et puis, soutenir les équipes.
J'entends, mais genre, j'ai été fan de Pokémon. Je prends le temps de faire tatouer un Pokémon, tout ça, bref. Mais je n'achèterai plus de Pokémon parce que c'est médiocre et que mon argent ne peut pas faire ça. Et je sais qu'il faut soutenir des équipes et qu'il faut faire ça et qu'il faut faire ça. Mais en fait, le problème, c'est que si on continue à acheter de la merde, en fait, pourquoi ils feraient autre chose? En fait, tant qu'il n'y aura pas une véritable répercussion sur leur portefeuille, ça ne va jamais s'arrêter.
Ils en ont viré, hein. Il y a plein de studios qui ont viré des équipes parce que le jeu ne marchait pas. Généralement, ils ne sont pas remis en question. Ils ont pris des gens qui coûtaient moins cher. Ils se sont tournés vers l'IA maintenant pour le même résultat. Ce qui importe aux équipes à ce jour, c'est pas oh, est-ce que le jeu va faire beaucoup d'argent, enfin, est qualitatif ou quoi, ou est-ce que le jeu va faire de l'argent immédiatement. C'est genre, il y aura toujours des gens qui diront oh, on va tester le jeu. Il y aura toujours des journalistes qui vont dire il est super le jeu. Bien sûr, ils ont joué. Bien sûr, ils ont joué 2 heures dans un studio et ils ont été payés pour le faire. Mais il y aura toujours, parce que c'est un truc, c'est devenu un business.
Ouais, et c'est déprimant. Sincèrement, c'est déprimant. Mais on a beaucoup digressé là-dessus. Il y a encore deux grosses annonces, puis après on parlera d'un jeu plus là. D'un point de vue des trucs qui sont un peu plus qui moi me font plus plaisir, je vais pas mentir. Il y a la sortie de plusieurs gros jeux ce mois-ci, notamment Mio, qui est Memories in Orbit, qui est un Metroidvania français, visuellement très beau, et qui a été fait par les créateurs du jeu qui s'appelle Shady Part of Me, qui est très cool aussi, et alors ça fait très longtemps qu'on n'a plus parlé, mais il y a un copain dans leur équipe, et coucou Nico si tu nous écoutes, mais voilà. Leur premier jeu était génial, leur deuxième jeu a l'air d'être magnifique. C'est français, ça vient de la région parisienne, c'est de mémoire, oui, bouh, mais de mémoire, c'est pas une très grosse équipe, et ils sont bourrés de talent. Alors si vous voulez avoir un bon Metroidvania qui n'est pas très connu pour l'instant, même
qui n'est pas Metroid,
qui n'est pas Metroid et qui commence quand même à faire pas mal de bruit, jouer à Memory in Orbit. Personnellement, je vais y jouer et je vais y jouer en stream. Donc si vous voulez venir voir que carobac.twitch ou kiziel.tv, ou encore une fois, on peut aussi me retrouver sur la chaîne de Henri Bou de temps en temps. Ça fait beaucoup. Mais venez voir parce que voilà, le jeu va être cool. Il y a Code Vein 2 qui va sortir aussi. Alors, Mio sort le 20 janvier. Code Vein 2 sort le 30 janvier. Ça se file dans Souls-like aux accents un peu animés Bandai Namco. Il est très attendu par les fans de Challenge. Alors, j'ai des potes qui ont joué. Moi, j'ai pas joué. Il y a des potes qui me disent il est génial. Il y a des potes qui me disent c'est plus la merde. Donc, allez-y, jouez, faites-vous vos points d'avis. Moi, je vais probablement jouer au premier. Je vous donnerai mon avis. Il sera sûrement tranché comme d'habitude, mais voilà. entre, il se sera probablement entre My Hero Academia et Dark Souls.
Oula.
Il y a 2XKO aussi qui vient de dire qu'il va y avoir un, qui va vraiment sortir sur console. 2XKO, c'est quoi? C'est le nouveau jeu de combat dans l'univers de League of Legends. Il est très cool. J'y ai joué. Je crois que j'ai genre 70 heures dessus.
Pas mal.
Et je hais les joueurs de Jinx, je hais les joueurs de Teemo, je hais les joueurs de Yasuo, mais tout le reste, sinon c'est cool. Vous êtes cool. Mais non, sinon vraiment, c'est un très bon jeu de combat. C'est un très très bon jeu de combat. Il est accessible, on peut jouer à la manette.
Ok.
Qui est assez rare pour le souligner. Et évidemment, ça c'est comme pour tous les jeux de combat. Si vous voulez devenir bon, c'est chiant, mais il faut faire les entraînements. Il faut faire les tutos parce que sinon, sinon on restera faire à vie. Mais c'est pas la question. Et pour finir, hardware et business. Bon, il y a eu une faille de sécurité chez PS5, donc faites gaffe avec vos. Avec vos trucs, parce qu'il y aura peut-être un piratage, on sait pas, mais en tout cas il va y avoir un patch pour essayer d'aider ça. Et on parlait d'IA, Sony a déposé un brevet pour des trucs qui s'appellent Phantom IA, qui sont des IA qui vont le mettre dans leur jeu pour visiblement nous aider dans les niveaux qui sont difficiles. L'IA pourra en fait analyser notre style de jeu et pourra peut-être nous aider à passer certains niveaux compliqués.
C'est exactement comme Nintendo faisait à un moment, il y a une hotline au téléphone,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais elle n'est pas l'air de sûre, donc je vais expliquer rapidement. Mais je crois que c'est dans les années 70, en gros, il y avait des gens payés par Nintendo qui répondaient dans un call center, qui avaient une petite télé en face d'eux, et tu les appelais en disant « Je suis dans ce jeu-là, sur ce niveau-là, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire. » Et ils répondaient au téléphone et ils te guidaient.
Ah, mais c'est incroyable.
Non, en vrai, c'est très très cool, et du coup, pour une fois, on va dire que je suis pas pro IA, je suis pas anti IA, mais on va voir ce que ça donne.
Mmh. On va voir ce que
ça
donne.
Ça peut être très cool. J'espère juste qu'ils vont, tant que c'est pas de l'IA générative, et j'espère juste qu'ils vont pas genre bloquer ce, si c'est bien, qu'ils vont pas bloquer cette feature pour tous les autres jeux, comme ils ont fait, par exemple, c'est EA qui a fait ça pour tous les jeux. C'était Seigneur des Anneaux, où il y avait tout le système de pire ennemi, qui était très cool et qui, en fait, ils ont mis en brevet, ils ont dit personne ne peut l'utiliser à part nous. Et
personne
n'a utilisé à part eux.
Honnêtement, je pense pas qu'ils bloquent ce brevet-là, parce que ça me fait penser que dans Infinity Nikki, dans la 2.0, quand tu fais des donjons et que c'est trop. Tu galères, ils te font une petite notification en disant ce niveau est un peu difficile, elle vous sûre de vouloir le continuer ou baisser le niveau. Il y a ça aussi sur.
Ça, c'est sur plein de jeux qu'il y a ça.
Ben oui.
Mais
du coup, c'est de l'IA ou pas?
C'est pas de l'IA. C'est juste.
Ça serait un autre système encore différent.
Un peu genre programmation, quoi.
C'est un peu programmation et il y a un peu aussi le côté où je sais que quand on me dit ça, je suis toujours en mode non. Non.
Moi aussi, j'ai dit non par égo. Non. Jamais.
D'un point de vue e-sport, un crossover qui est assez improbable entre South Park et Fortnite. Visiblement ça marche bien. Je m'y attendais vraiment pas. L'Esport Nation Cup 2026, donc la fondation Esport World Cup a annoncé sa première Coupe du Monde des Nations qui se tiendra à Riyad en novembre 2026 et sur lequel il y aura 16 jeux différents. Et enfin, d'un point de vue des records, Detroit Become Human vient de franchir la barre symbolique des 15 millions d'exemplaires vendus. Prouvant que les jeux narratifs ont un public et surtout qu'il y a un avenir. Faut jouer à Dispatch, j'ai pas encore joué, mais à ce qui paraît, il est génial.
Ouais, il a l'air incroyable.
Dernière news, et après on pourra passer enfin à le dernier truc, il y aura une demi-heure de jeux vidéo, je suis désolé.
Mais non, c'est pas grave.
Et on pourra passer aussi à la première musique après ça. Dernier chiffre à retenir, le 19 novembre 2026, c'est officiel, normalement, et on espère que ça l'est pour une fois, c'est la date de sortie de GTA 6. Personnellement, je ne l'attends pas, mais je sais que beaucoup de personnes l'attendent.
Oui, moi je l'attends.
Moi je l'attends aussi.
J'achète une PS5 le jour où ça sort, je vous jure. J'en achète pas avant, j'en ai aucun intérêt, mais quand ça sort, je l'achète.
Ça va pas sortir sur PC.
Ouais, je sais, mais c'est pas la même expérience.
Oui.
Ah ouais.
C'est vrai.
Sur PC, je prendrais une manette, donc autant que je prenne une console en fait.
C'est vrai que tu marques un point, et il y a un monde où si on n'est pas pauvre, ouais, on prend aussi une PS5.
On prendra le PC. Oui. La version PC.
Et du coup, pour cette deuxième partie de Game Pop, j'ai envie de parler d'un jeu qui m'a marqué. Vous savez que j'ai un amour amoureux des Souls-like. Et le petit dernier, du coup, de From Software, c'est le jeu qui s'appelle Elden Ring Night Rain. Alors, j'entends déjà venir tous les rageux qui vont dire « J'ai pas envie de jouer à Fortnite, Battle Royale, c'est de la merde. Bah, » Très bien, d'accord. Et votre avis, allez rager dans notre coin, laissez-nous nous amuser. Le jeu est un jeu qui est un peu différent des autres sous le design. Non, vraiment, il y a vraiment des gens qui disent ça, hein, qui sont en mode « c'est du Fortnite, c'est nul,
ça
faut pas le jouer ».
Ça n'a rien à voir avec Fortnite.
Non, mais en fait, ils disent que c'est Fortnite parce qu'il y a une zone qui se referme, tout ça. En gros, Elden Ring Night Rain, c'est un jeu From Software qui se déroule dans l'univers d'Elden Ring, sur lequel ça se passe sur une entre-terre, entre guillemets, qui a été déformée par ce qu'on appelle la Nuit Éternelle. La Nuit Éternelle, c'est un peu comme l'Ordre d'Or, c'est un autre dieu, tout simplement, qui est là et qui, du coup, on joue des condamnés qui ont pour but d'aller tuer tous les seigneurs de la nuit jusqu'à tuer l'ultime seigneur de la nuit qui pour libérer, du coup, tout ça. Il y a actuellement 10 personnages. 11 personnages, si je ne me trompe pas. Et chaque personnage a son gameplay et sa manière d'être joué qui est différent. Pourquoi est-ce que le jeu est cool? Déjà parce que c'est un jeu qui, pour une fois, ne se joue pas tout seul, ça se joue jusqu'à 3, et c'est là qu'on trouve vraiment tout le sel du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on va arriver sur un aigle, on va être lâché sur la map, et on va devoir trouver la manière la plus optimisée de faire un maximum de donjons pour gagner des niveaux, récupérer du stuff, et se battre contre des boss. Il va y avoir des boss de tous les Souls qui ont eu jusqu'à présent et d'Elden Ring, et après il va y avoir un gros boss à la fin qui s'appelle un seigneur de la nuit. Il y en a des cools comme par exemple le dragon de glace, et il y en a des chiants comme Augur qui est son pouvoir c'est le sommeil, et c'est bien, il endort les joueurs quand il y joue. Mais toute la question n'est pas spécialement là, c'est que du coup c'est un jeu qui a beaucoup beaucoup de contenu et qui vient d'avoir un nouveau DLC qui coûte 15€ de mémoire, et qui rajoute deux nouveaux personnages, en tout il y a 6 nouveaux boss, et 2 nouveaux seigneurs de la nuit. Et les deux les nouveaux personnages sont des personnages qui sont très cool, enfin voilà, je vais pas dire ça personnellement, je suis un joueur de l'érudit et de la duchesse, mais chaque personne peut trouver son style de jeu, et c'est ça qui est vraiment très agréable. Le jeu est beaucoup plus... chill et abordable qu'en jeu Souls, ce qui fait que beaucoup de personnes ont craché dessus pour dire qu'il était trop simple. Enfin bref, vous connaissez les puristes de Dark Souls qui disent que c'est tout est beaucoup toujours trop simple. J'y ai joué 120 heures depuis que j'ai commencé à y jouer. Donc j'ai fini le jeu, j'ai fini les histoires des deux personnages, parce que oui, chaque personnage a son histoire, avec sa propre timeline qui pour une fois n'est pas cryptique, et du coup on peut vraiment trouver des trucs qui sont très cool. Il y a certaines histoires qui sont très tristes, elles sont toutes très tristes. Elles sont toutes
horribles. Mais à des degrés différents.
Et après ça reste en soul, hein. Enfin je veux dire, pour ce qui est de tout ce qui va être gros boss de fin, va falloir vous y reprendre un peu plus tard. On va faire un petit shootout to Everdark Libra, qui t'envoie des doubles de toi-même te casser la gueule pendant que t'en bats contre lui, pendant que lui il est en train de se là. C'est atroce.
Oui.
Mais voilà, du coup quand on va Everdark Libra, souvent on est en mode flemme, et on va en Deep of the Night, parce que c'est ça aussi un des trucs qui est bien, c'est que tu finis le jeu. Et plutôt que de recommencer, alors tu peux le refaire avec tous les personnages évidemment si tu le fais à 100%, mais l'autre truc que tu peux faire, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Deep of the Night, qui sont juste le jeu en 50 fois plus dur.
Du coup, ouais, c'est vraiment bien différent de refaire le jeu, quoi.
Ouais, voilà, c'est plus dur, il y a des nouveaux objets, il y a des trucs comme ça, il y a des invasions, et voilà, personnellement j'aime beaucoup les égalisatrices qui sont un nouveau boss, qui en gros, contrairement aux autres boss où c'est un gros boss, en fait c'est plusieurs adds qui vont se battre contre toi, et le but c'est de survivre. Bref, le jeu est cool. Si vous voulez y jouer, il coûte pas très cher, en vrai. Pour 45€, on a en jeu le DLC et on a plus de 200 heures de jeu. Donc ça vaut le coup. Et pour les personnes qui n'aiment pas, qui disent que c'est Fortnite tout ça, restez dans votre jalousie. Moi, je suis dans mon jacuzzi et je m'amuse. Voilà.
Et je joue en même temps, car je n'ai pas peur de l'électrocution.
Exactement. Je suis plus fort que Claude François. Bref, on va vous laisser pour cette première pause musicale. Je rappelle juste avant que vous êtes sur Radio G 101.5 FM, et on va se retrouver pour Purgatory Silver Star, qui a été fait par Joe Joe Carey, qui voilà, qui
Steven.
Steve dans Stranger Things. Mais voilà, on lance la musique, on se retrouve juste après. Des bisous, tout le monde.
Vous avez vu, on est tous sur.
Ça vous a plu? Nous, oui. On va se retrouver juste après, du coup. Enfin, on va se retrouver tout de suite parce que les virgules n'ont pas encore été faites. Elles vont être faites, promis. Mais du coup, on va se retrouver tout de suite avec, du coup, la chronique de Claire, qui est une chronique un peu un mélange de qu'est-ce qu'on lit, de qu'est-ce qu'on regarde. Faut que je te remette ton micro. C'est le rouge, c'est où rouge? Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'on lit, de qu'est-ce qu'on regarde? Du coup, bah, Claire, c'est à toi.
Qu'est-ce qu'on reluit du coup?
Qu'est-ce qu'on reluit?
Aujourd'hui, j'ai décidé de parler, comme à chaque fois, de saga, parce que vous l'avez compris, j'ai un petit truc pour les sagas, que ce soit littéraire ou film. Donc, bien sûr, j'ai décidé de parler de Hunger Games, qui est quand même plutôt revenu récemment. Donc c'est une saga, enfin c'est une saga, c'est une petite, petite discussion autour de Hunger Games. Pour commencer, en vrai, prenons le simple. Si vous n'avez jamais connu Hunger Games, qu'est-ce que c'est ? Hunger Games se situe dans un monde post-apocalyptique, concrètement dystopique, complètement dystopique, qui est dans le monde de Panem, l'ancienne Amérique. Et oui, oui, ça a été prouvé par Suzanne Collins, l'écrivaine. Et qui, effectivement, suit pour le récit initial Katniss Everdeen vivant dans le 12e district, sachant qu'il y en a 12, ça tombe bien, et qui, effectivement, va faire partie des Hunger Games, c'est-à-dire une compétition où on envoie un garçon ou une fille de chaque district pour se battre et pouvoir ramener un an de nourriture à son district, sachant qu'évidemment, cette pauvre petite Katniss vient de l'île, non je déconne, elle vient du 12e, qui est vraiment, effectivement, minier et le plus pauvre des districts. C'est une saga qui est extrêmement connue, extrêmement populaire. C'est-à-dire qu'il y a 100 millions de copies qui sont actuellement en circulation du livre. 100 millions, c'est gigantesque. Sachant que ça a été traduit en plus de 50 langues. C'est extrêmement populaire et donc effectivement, elle a plusieurs, comme je dis, il y a plusieurs sagas. On a le premier, The Hunger Games, qui est sorti en 2008. Elle n'a pas chômé, l'année d'après, en 2009, Catching Fire est sorti. En 2010, on a eu Mockingjay qui termine la saga initiale. Ensuite, en 2020, c'est-à-dire 10 ans plus tard, sortait The Ballad of Songbirds and Snakes. Puis, en mars 2025, Sunrise at the Reaping. Reaping étant le mot pour effectivement les Hunger Games en anglais. Donc c'est effectivement beaucoup de livres pour une saga très populaire, ce qui n'est pas très souvent le cas. Généralement, les longues sagas ne sont jamais adaptées et surtout pas vraiment très populaires parce que ça demande beaucoup d'investissement. Là, Hunger Games, c'est un phénomène. Beaucoup de gens vont toujours faire des blagues dessus, même sans connaître toutes les histoires. On le connaît parce que c'est sorti en film, parce que ça a marqué son époque. Et quand effectivement je parle d'époque, je parle plutôt de l'époque des films qui sont sortis dans les années 2012. Mais en tout cas, pour vous rendre compte, quand le dernier est sorti en mars 2025, plus de 5 ans après le dernier livre, plus littéralement de 15 ans après le premier livre, en la première semaine de vente, 1,5 million d'exemplaires ont été vendus. C'est gigantesque. Pour un livre, c'est gigantesque. Pour un livre de dystopie, c'est gigantesque dans nos années. Et effectivement, quand on part là maintenant des livres, on a aussi des chiffres qui sont phénoménales. 2012, premier film. 2013, deuxième film. Là, on avait Hunger Games et Catching Fire. Pour le dernier de Mockingjay, qui finissait techniquement la saga. 2014 pour la partie 1, 2015 pour la partie 2. En 2023, surprise, c'est-à-dire 3 ans après The Ballad of Songbirds and Snakes, c'est adapté en film. Ça avait fait un grand retentissement déjà à l'époque. Et en 2026, on nous annonce donc bien évidemment Sunrise of the Reaping, le film en novembre 2026. Ce qui est impressionnant, parce que le livre est sorti en mars 2025. Donc quasiment un petit peu plus d'un an après, on a déjà les acteurs, on a déjà le scénario pour le film, l'adaptation est prête, elle est lancée. C'est un travail de fourmi et c'est impressionnant de le faire en 2026 alors que les gens ne sont plus vraiment normalement au dystopique et au post-apocalyptique. C'était pas ce qu'on avait récemment. Et même pour vous rendre compte, pour toute la saga en entière, c'est des milliards d'entrées plus la vente de DVD. Je vous laisse, peut-être JR qui a plus de voix, essayer de deviner combien il y a d'entrées.
D'entrées au cinéma ?
En milliards.
En milliards ? 4 milliards.
Un tout petit peu moins. Est-ce que Mel, tu veux essayer ?
Attends, je mets ton micro. Mel, c'est le blanc. Voilà.
3 milliards.
3,3 milliards, effectivement. Oh. Le compte est bon. Vous vous rendez compte ? On est sur un livre qui a été vendu actuellement à au moins 100 millions d'exemplaires et on a 3,3 milliards d'entrées. C'est que le phénomène du livre a tellement dépassé que, enfin, je veux dire, c'est même pas un x10. C'est gigantesque. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je voulais le noter, parce qu'on va pas se mentir, ça n'arrive pas à tous les livres. Suzanne Collins n'est plus vraiment très pauvre, elle est plutôt heureuse. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit récemment, mais Suzanne Collins, c'est vraiment quelqu'un de spécialisé dans l'écriture pour enfants. Elle est scénariste, elle est auteure à la base, et elle a notamment travaillé pour Nickelodeon, qui est quand même le network pour les TV shows pour adolescents. Donc c'est pas un hasard, concrètement. C'est vraiment pas un hasard.
Et effectivement, là, je vous ai donné rapidement les petits titres. Donc, effectivement, la saga originale et les autres livres. Et là, un peu comme Star Wars, on a un peu cette discussion de l'ordre maintenant qu'on peut mettre. Dans quel ordre est-ce qu'on lit les films? Dans quel ordre est-ce qu'on lit les livres? Parce qu'il y a toujours ce débat sur Star Wars. Est-ce qu'on regarde d'abord les préquels? Est-ce qu'on regarde les autres? Et bien là, c'est pareil, on pourrait se demander. Parce qu'en fait, c'est pas sorti dans l'ordre. D'abord, on a eu la saga initiale avec Katniss qui découvre... Enfin, on découvre avec Katniss plutôt ce monde dystopique, cette société qui concrètement juste les met dans une détresse pas possible. Mais du coup, The Battle of Songbirds, c'est plutôt l'origine story. À ce moment-là, les Hunger Games existent déjà, mais c'est les 10e Hunger Games. Alors que pour Katniss, on est sur les 74e, donc c'est vraiment pas la même chose. Et pour Sunrise of the Reaping, c'est un petit peu la suite, avec Haymitch, qui deviendra le mentor de Katniss. Et lui, je crois que c'est Hunger Games, ça doit être les 40e.
Et on en a entendu parler d'ailleurs, je pense, dans la série de base.
Oui, tout à fait.
On en entend parler. Du coup, on sait plus ou moins comment ça se termine, mais c'est pas ça qui est intéressant.
Ben non, c'est pas ça qui est intéressant, parce qu'en fait, pour le coup, du coup, ça peut être discutable. Est-ce qu'on a envie de commencer la série avec Katniss qui découvre ce monde pour nous donner les clés? Ou est-ce qu'on commence plutôt, effectivement, avec le méchant qui devient un mentor, alors même qu'à l'époque, les mentors, c'est pas des anciens victorieux. C'est juste des gens du Capitole, de la société, ceux qui gèrent les choses. Et c'est ça qui est vraiment très sympa, et c'est un petit peu un débat qui a commencé récemment, où les gens disaient, bah moi du coup je commence dans l'ordre de sortie des films, un peu comme Star Wars, ou des gens qui disaient, bah en fait non, moi je veux suivre l'histoire et voir les choses évoluer dans le temps. Et c'est hyper intéressant, autant dans les livres que dans les films, parce que par exemple, le détail un peu futile mais qui est très intéressant, c'est que Katniss, quand elle va chasser, il y a une barrière qui protège le pré qui entoure le 12e district. Elle est électrifiée à la fin du livre, elle ne l'est pas à son début de livre. Haymitch, qui était un petit peu avant elle, mais aussi dans le 12e district, il n'avait qu'une barrière en bois. Et quand on revient avant dans le temps, dans Songbird, qui est techniquement le premier de la saga, dans le temps, chronologiquement en tout cas, il n'y a pas de barrière. Il n'y a littéralement pas de barrière. On voit une société qui emprisonne de plus en plus les gens, même dans l'espace. Et en fait, du coup, c'est fascinant. Est-ce que tu veux voir la situation dans laquelle elle est initialement? Ou est-ce que tu veux voir la situation dans laquelle elle est avant et voir les choses devenir de plus en plus presque légères ou un peu plus, avec beaucoup plus de liberté? Et ça, c'est super intéressant parce que bah, y a peu de sagas qui nous permettent d'aller aussi loin dans une histoire et d'être autant dedans, en fait. La plupart d'une saga va te montrer juste, ah bah là, c'est le monde dans lequel elle vit, à la fin, on règle le problème et puis basta. On voit pas le problème devenir de plus en plus grand, de plus en plus imposant, en fait. Et ça, c'est excellent.
Moi, je pense que du coup... La meilleure chose à faire, c'est d'abord, si tu veux, tu regardes avec Katniss, puis après les deux autres.
Ouais.
Donc la trilogie initiale, puis après les deux autres. Et ensuite, un peu plus tard, quand tu te souviens plus trop, etc., tu regardes, mais dans l'ordre chronologique de l'histoire.
Ça peut se faire,
ouais. Bah, en vrai, je pense que ça doit être ultra intéressant de regarder dans les deux sens, en fait, pour avoir bah, justement les points de vue de façon assez différente. Mais ce qui est bien, c'est que dans Hunger Games Origins, on va dire, enfin, original, la trilogie avec Katniss, c'est que c'est un monde déjà établi.
Ouais.
Et du coup, bah, c'est un univers où t'as pas besoin de connaître le reste pour pouvoir regarder la trilogie.
Ouais.
Tu vas pas manquer plein d'éléments si tu regardes pas, sauf si t'es vraiment à fond dans les certains personnages comme Mitch ou Snake.
Cornelius.
Ouais, Cornelius.
Non, Snow, pardon.
Snow, Snake. Oui.
Cornelius Snow, ouais.
En vrai, je pense que
en soi, tu les croises quand même parce que justement, tu vois tu les vois ados quand eux-mêmes sont à l'époque de Katniss. Et dans tous les cas, ça reste un petit peu ce genre de roman qui font apprendre l'histoire avec leur personnage parce que chacun a son point de vue. On est sur Cornelius qui, lui, bah, il vient du Capitole. Il est extrêmement pauvre, attention, mais il vient du Capitole et il a pas cette notion d'effectivement les Hunger Games qui sont là parce que les districts se sont révoltés. Lui, il est juste en mode, c'est mon job, je vais juste faire en sorte de survivre dans le monde dans lequel je suis parce qu'il veut pas du tout se rebeller initialement.
Même si je me trompe pas, son père était quelqu'un qui était contre les Hunger Games de base.
Ouais.
C'est
En fait, non, c'est sa mère.
Sa mère.
Bah, c'est un peu du spoil, mais bon, le livre est sorti maintenant, quasiment il y a un an, ça va. Mais ouais, en fait, il y a toute cette discussion avec sa mère qui était vraiment hyper, plein de bonté d'âme, contre les Hunger Games, et son père qui, lui, était bien plus cruel. Et c'est à la mort de son père que la famille tombe complètement dans la pauvreté. Et là, ils doivent rendre l'appartement, ils mangent des rats, ils ont plus de quoi s'habiller. Et Cornelius, du coup, dans tout le roman, du coup, The Ballad of Songbirds and Snakes, il doit faire semblant d'avoir de l'argent avec ses autres gens du Capitole qui en ont beaucoup. Et ça pète un peu ce stéréotype qu'on avait déjà des gens du Capitole, tous riches, qui galèrent pas du tout, qui ont pas du tout faim. Parce que lui raconte que littéralement, il buvait énormément d'eau pour ne pas ressentir la faim. Et il y a des moments où c'est hyper intéressant, parce que quand t'as lu The Hunger Games, tu sais que les gens du Capitole, à l'époque de Katniss, ils mangent énormément, ils avalent des boissons spécifiques pour se faire vomir, pour remanger. Oui. On n'est plus sur la même dynamique.
C'est l'abondance. Ah ouais. Cette
bah, je crois qu'on est 10 ans après la révolte, donc il y a toute la question aussi de, ils ont vraiment peur. Et puis, les Hunger Games, encore une fois, c'est du spoiler, mais le film et le livre sont sortis il y a un certain bout de temps.
2012 mais, pour le premier.
Il y a, genre, c'était pas comme dans le premier, c'était pas genre en gros truc qui nous, qui nous a. Non, c'était une arène.
Ouais.
Et des fourches et entretuez-vous.
Ouais.
Et il y a toute la question de aussi.
C'était une arène ouverte d'ailleurs à l'extérieur. C'était un zoo initialement.
Oui, c'était un zoo à l'extérieur.
Ouais.
Et il y a aussi toute la question de. À un moment, on pense vraiment que Snow va être contre.
Ouais.
Et c'est juste à la toute fin qu'on lui propose de devenir organisateur.
Ouais.
Qui décide de trahir
Lucy Gray.
Lucy Gray qui disparaît, dont on ne sait pas si elle est morte ou si elle est vivante. Mmh. J'ai mon idée là-dessus.
Elle est probablement de la même famille que Katniss.
Oui, donc elle est sûrement pas morte.
Pour moi, elle n'est pas morte.
Pour moi, elle n'est pas morte non plus.
Pour moi, elle n'est pas morte.
C'est pour ça que c'est vraiment passionnant comme monde. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens aussi ont accroché. C'est que c'est genre tellement profond comme histoire. Et genre, il y a tellement de détails et de choses que tu peux relier que quand tu es accroché dans un livre, tu as envie d'un peu d'avoir la suite. Et quand tu as la suite, tu as encore plus envie de te replonger dans le roman initial pour retrouver des détails en rapport. Et ça, je trouve ça genre fabuleux. Et même les livres, c'est pareil.
Genre,
tout a été fait avec l'accord de Suzanne Collins, qui a vraiment pu mettre sa patte et dire « Non, Amy, je ne dois pas faire ça. »
Même, on voit la sœur de Snow.
Oh oui, la cousine.
La cousine.
La tigresse
qui, on apprend, si je ne me trompe pas dans les livres, que si elle est si déformée, c'est aussi à cause de Snow.
Eh bien, théorie, ça.
Oui.
En fait, il faut faire attention parce que c'est extrêmement populaire et il y a beaucoup de fan-made. Mmh. Donc les gens ont écrit énormément sur ça pour expliquer telle backstory et tout. C'est pas toujours vrai. Là, okay. Pour le coup, c'est pas vrai. En fait, on sait pas. Mais les gens théorisent qu'effectivement, elle l'a fait soit parce que lui, il lui a imposé pour se faire punir d'avoir été contre lui.
Oui.
Soit, effectivement, elle l'a fait elle-même pour genre être en mode vas-y, fuck it, je préfère être un animal que d'être dans ta famille. Mais ça, c'est vraiment toute une autre discussion qui est plus autour du fan-made. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois de faire la part des choses.
Oui.
Mais voilà, maintenant, vous allez me dire, il y a quand même d'autres sagas à la même époque qui étaient populaires. J'ai donc décidé, parce que je suis quelqu'un de très toxique, de les comparer avec Divergente.
Oh mon Dieu.
Les chiffres de Divergente sont bien plus différents. Divergente, c'est pour les livres 35 millions de copies, quand on était à 100 000 copies pour Hunger Games. Et pour les films, au total, 765 millions d'entrées au cinéma à la place de, pour Hunger Games, 3,3 milliards. Pourtant, c'est pas peu populaire, c'est simplement qu'il faut penser que Divergente a même été annulé le dernier. Il devait y avoir un dernier film Divergente qui a été complètement annulé.
Il était pas ouf non plus le premier, on va pas se mentir.
Ouais, mais c'est surtout le 2, je crois, qui a vraiment flopé, qui a été médiocre et ils ont fait un peu n'importe quoi.
Pourtant, la série de livres était très populaire de mémoire.
Elle était très populaire, mais pas tant que ça quand tu regardes 35 millions comparé à 100 000.
Oui.
Enfin, 100 millions en fait, c'est pas. Je pense juste que Divergente est sorti peut-être un peu plus tard et a peut-être touché moins de gens.
Oui.
Parce qu'il était aussi beaucoup moins réaliste, on va pas se mentir. Il était vraiment là, dans ce cas-là, barré, et les gens pouvaient pas forcément toujours s'y accrocher.
Et plus cliché aussi.
Et oui, et plus cliché. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je voulais voir avec vous, c'est mais pourquoi est-ce que ça a autant marché comme ça, la dystopique à cette époque-là? Est-ce que vous avez un peu des idées?
J'ai deux, trois idées personnellement.
Allez.
C'est plutôt la question, je regarde le temps en même temps, mais c'est plus la question de, on commençait doucement à avoir ce côté de la science-fiction qui est beaucoup plus présente aujourd'hui, qui est plus pessimiste sur notre avenir.
Ouais.
Et on avait du coup tout ce côté de, ouais, mais c'est pas bien, mais il y a quand même genre les voitures volantes, tout ça, pas genre juste la montée du fascisme, une guerre mondiale qui se prépare et tout le monde qui a envie de pleurer. Mais du coup, je pense qu'il y avait ça qui était un peu rassurant, entre guillemets. Et qui sait qu'il y avait ça. Et pour ce qui est purement juste de Hunger Games, pour avoir lu pas mal de dystopies, notamment le labyrinthe et tout ça, ouais. Il y a ce côté qui était très réaliste, justement, très terre à terre et très déprimant, en fait, sur une caste dominante qui, en fait, écrase le reste et qui a pris le pouvoir après une guerre qui a sûrement été mondiale, vu qu'on n'a aucune idée de comment se passe le reste du monde. Ouais. Et qui fait que, justement, il y avait moins ce cliché de l'héroïne super forte, super puissante, qui a un pouvoir lié au prince de mon cul qui n'avait disparu du puterie et qui tombe sur le beau gosse ultime qui est super fort et qui est super ténébreux.
Ouais, tout à fait. Et ce qui est aussi relevé, c'est déjà Hunger Games, ça a plu beaucoup aux aux adolescents, ce qui est logique parce que c'est eux qui achètent plus de livres que des adultes. Ils ont beaucoup plus le temps de lire et c'est pas un défaut, c'est même plutôt une qualité. Mais surtout, effectivement, c'est relié à ça parce que l'adolescence, c'est un moment où on n'a pas toujours sa place dans la société. On se rend compte que les adultes sont pas toujours tous honnêtes avec nous et pas toujours très bienveillants. Et pour la plupart, c'est vraiment une période où effectivement, il y a un certain malaise, certains questionnements sur son propre identité. C'est pour ça que généralement, je pense que là, ça a beaucoup marché. Et au-delà de ça, les années 2008, il y avait quand même une petite crise économique.
Oui.
Et il y avait surtout aussi, dans les années 2000, 8 ans seulement avant, le 11 septembre, les copains. Et en fait, il y a tout ça, la crise écologique, en fait, c'est une période qui a été extrêmement pessimiste. Et je pense que les gens ne sont pas capables de lire des choses trop positives dans cette période très négative. Donc je pense que ça a plu à beaucoup d'étudiants, beaucoup en tout cas d'adolescents qui ne savaient plus se placer dans ce monde, qui était très négatif et qui, je pense, ont eu besoin de s'accrocher à quelque chose et de se dire « Ok, c'est pas littéralement ce qui se passera, mais ça se trouve, ça peut se passer comme ça, je peux m'y projeter. »
Oui.
Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça, et je pense que c'est aussi relié à ça qu'on a une extrême résurgence de Hunger Games maintenant. C'est qu'en fait, on est sur des temps très difficiles. Quand on voit la politique en ce moment, c'est mondial, c'est extrêmement effrayant. Et je pense que Susan Collins a eu vraiment raison de sortir ses livres maintenant parce que les gens ont besoin de cette nostalgie, de ces choses qu'ils ont connues quand ils étaient adolescents, parce que c'est les adolescents d'avant qui regardent maintenant ces films-là aussi en grande partie. Et donc je pense que tout ça, ça a effectivement conclu à ce qu'aujourd'hui, Hunger Games soit très populaire, soit quelque chose que les gens regardent régulièrement, ou en tout cas ont toujours un certain souvenir dans leur esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, les nouveaux films peuvent ressortir. Parce qu'il n'y aura pas d'annulation de films comme Divergente. Les gens ont besoin de quelque chose comme ça en ce moment. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais mettre en avant. Mais pour finir, parce que je sais que le temps tourne un petit peu, ça c'est super, mais c'est très américain quand même, Hunger Games.
Oui.
Donc je voulais mettre en avant très rapidement une petite série qui existe, qui s'appelle L'Effondrement, qui est effectivement un partenariat entre Canal et Arte, qui est sorti en 2019. Donc vraiment pareil dans les années. Vraiment super récent, très très update, qui est aussi pareil sur l'effondrement de la société, c'est très réaliste. Et ce qui est très intéressant, c'est surtout que chaque épisode, c'est un personnage différent. Donc c'est un peu, ce sera pas une saga où on aura cet attachement au personnage comme on peut avoir avec Hunger Games, qu'on peut avoir aussi avec le labyrinthe, comme tu l'as dit. Mais par contre, si un jour vous avez besoin de regarder quelque chose de très pessimiste, mais qui vous fait penser à autre chose, eh ben, ça peut valoir le coup de regarder, sachant que la suite est sortie normalement en 2025. Donc vous pourriez effectivement y jeter un petit coup d'œil si je ne me trompe pas.
Petit disclaimer juste pour l'effondrement.
C'est dur.
Gardez bien en tête que c'est giga dur.
Ouais.
Plus
pour adultes que pour adolescents.
Ouais, il y a des scènes qui sont vraiment très dures. Il n'y a pas de violence, entre guillemets, genre tout ce qui va être violence.
C'est violence émotionnelle. Plutôt,
c'est beaucoup de violence émotionnelle, beaucoup de violence graphique aussi.
Ça brise le cœur.
Et en fait, ce qui brise d'autant plus le cœur, c'est qu'on a tout ce côté de, si on en est vraiment de notre société, ce qui montre, c'est ce qui risque d'arriver.
Ouais.
Et c'est déprimant.
Ça l'est. Non, mais concrètement, ça l'est. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me dis, quitte à regarder quelque chose d'effectivement dystopique, si vous voulez tenter un truc français plutôt qu'une petite série américaine, ça peut être sympa.
C'est fait par les parasites de mémoire et ils sont bourrés de talent. sur la fin, on va arriver bientôt à la fin, mais on va faire une deuxième pause musicale. On rappelle encore une fois qu'on est sur Radio G 101.5 FM. Il est 19h54-55. Et du coup, on va simplement mettre une musique de Valo qui s'appelle Die For You. Et on se retrouve juste après. Des bisous.
Bisous.
Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all there'll be.
like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you.
Et qu'on retrouve sur Valorant. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour les annonces de mail. On ne parlera pas de Stranger Things aujourd'hui parce que déjà Claire a pas fini de le regarder et puis étant donné que si on veut vraiment bien parler, il va falloir spoil. Alors si vous voulez pas être spoil dans deux semaines, regardez Stranger Things ou ce sera tant pis pour vous. Vos micros n'étaient pas ouverts, donc oui, c'est dégueulasse.
Non, on a dit c'est des menaces.
Oui,
mais ça,
oui.
C'est dégueulasse. Hein.
Alors, c'est dégueulasse et c'est des menaces. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est oui. À toi, Mel.
Alors, avant de finir l'émission, juste petite information. Nous, qui dit nouvelle année, nouvelle résolution, et on a décidé avec l'équipe de se remettre à fond sur les réseaux avec Pop Flash. Donc, on va mettre un peu plus de vidéos sur nos réseaux. On vous mettra les réseaux plus tard, mais on mettra aussi
on mettra aussi des photos,
on mettra des photos, des vidéos si on peut, et aussi du coup sur le site de Radio G, vous aurez toutes les informations, les sources et une jolie page pour Pop Flash. Voilà.
Exactement. Il y aura peut-être d'autres projets vidéo dessus.
Et
on ne sait pas.
Petits projets peut-être. On verra. Mais en tout cas, voilà, restez à l'affût parce que d'ici février, vous verrez un peu plus d'accès au réseau avec Pop Flash. Et la deuxième annonce, c'est que chaque mois, je vais lire un livre en 2026, donc en tout 12 livres, et je ferai un point chaque mois, ça sera le point lecture. Voilà.
Parfait. On,
voilà.
Petite précision avant qu'on s'arrête, tout simplement, c'est que il y aura évidemment toutes les informations de Pop Flash sur notre Instagram, mais je pense qu'on se laisse aussi une petite liberté, vu qu'on reste avant tout une bande de potes, de mettre aussi un peu ce qu'on veut dessus.
Ah oui, non mais
pour faire ça.
Genre Mel et moi ayant peur des insectes.
Voilà, par exemple, et moi qui me moque d'eux, voilà. Mais okay. Non, ça va être très cool, c'est nouveau ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. Le mot de la fin, Mel.
Merci de nous avoir écouté.
Le mot de la fin, Claire.
Bye bye.
Cucurbitacé. À dans deux semaines. Des bisous.
Radio G 101.5 FM.